L'heure est venue de plonger au cœur de nos archives pour une nouvelle exploration approfondie. Une exploration qui va vraiment faire voyager les esprits curieux dans le temps.
Oui, la mission d'aujourd'hui est absolument captivante.
Ouais, on va remonter le cadran temporel pour atterrir dans le premier tiers du XXe siècle. Plus précisément, au cœur d'une région française qui garde, même aujourd'hui, une part de mystère.
Le Carladez ?
Le Carladez, exactement. Situé dans le département de l'Aveyron, et pour cette aventure, notre machine à voyager dans le temps, c'est pas un engin de science-fiction.
Non, et ce ne sont pas non plus des documents officiels rédigés par des bureaucrates ou de grands traités historiques poussiéreux.
C'est ça. Ce sont de simples et humbles morceaux de carton imprimés, des vieilles cartes postales.
Ben, c'est souvent là qu'on trouve la vraie histoire, en fait.
Tout à fait. Mais attention, avant de commencer à résumer et à plonger dans ces sources inestimables, il est vraiment primordial de citer l'auteur de ce magnifique article sur lequel se base toute notre analyse d'aujourd'hui.
Bien sûr.
Il s'agit de Jean-Pierre Crume, un chercheur dont le travail de compilation minutieux permet de redonner vie à des instants figés depuis plus d'un siècle.
Un travail de fourmi, vraiment. Et il faut également saluer le travail fantastique de Guy Mazard.
Oui, absolument.
Guy Mazard, qui est le rédacteur en chef et le concepteur de la mise en page de ce bulletin du Cartoclub Aveyronnais. Leurs affaires combinées nous offrent aujourd'hui un accès direct à un monde disparu.
Et on les en remercie, parce que sans eux, pas d'exploration aujourd'hui.
C'est clair. Et pour bien poser le contexte de notre analyse, il faut d'abord se défaire de notre vision moderne de la carte postale.
Comment ça ?
Bah, aujourd'hui, on l'associe aux vacances, aux farnientes, à un petit mot rapide envoyé depuis la plage, quoi.
Ouais, genre, il fait beau, le sable est chaud.
Voilà. Mais à cette époque, particulièrement au début du XXe siècle, ces bouts de carton avaient une toute autre fonction. Ils étaient les documentaires bruts d'une société en pleine mutation.
Les photographes locaux faisaient un vrai travail de reporter, en somme.
Exactement. Ils capturaient absolument tout. Les grands chantiers industriels, les drames de la route, les petits métiers voués à disparaître.
Les détails insolites aussi.
Même les détails les plus insolites d'un village, oui. Ces images figeaient une époque charnière, ce moment très précis où la brutalité de la modernité venait percuter de plein fouet des traditions rurales ancestrales.
Surtout dans des territoires isolés comme le Carladez.
Surtout là-bas, oui.
Ok, décortiquons ça. Entrons dans le vif du sujet avec notre première série d'images. Ce que l'article met immédiatement en évidence, c'est l'étude des visages.
Ah oui, les visages sont frappants.
La toute première carte postale mentionne s'intitule « Paysanne du Carladez en costume de fête ». Quand on lit un titre pareil, on s'attend à de la légèreté, non ? À de la danse, à des sourires, à un moment de relâchement.
Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est justement la contradiction absolue entre le titre de l'image et ce qu'elle donne à voir.
C'est le jour et la nuit.
Complètement. La photographie nous montre une femme au visage d'une sévérité marquante. Il n'y a pas l'ombre d'un sourire. Elle porte des vêtements sombres, très lourds.
Très éloignée de l'idée qu'on se fait d'une tenue festive aujourd'hui.
C'est clair. Mais surtout, le détail qui frappe, c'est ce qu'elle tient entre ses mains.
Ah oui. Ça en dit long sur la condition paysanne de l'époque.
C'est l'incarnation même d'une société où le labeur était la condition sine qua non de la survie. Le repos, l'oisiveté totale, c'était un concept presque extraterrestre pour eux.
T'avais pas le droit de rien faire, quoi.
C'est ça. Même lors des rares moments de célébration, les mains devaient rester occupées. La tâche devait s'accomplir. Je suis restée bloquée sur cette paysanne, immobile, recueillie. Avec son regard lourd, elle reflète vraiment l'âme d'un pays rude.
Ce territoire étagé entre les vignobles de la vallée du Lot et les flancs escarpés du Puy Gros.
Exactement. La fête, oui, mais sans jamais oublier le poids du quotidien.
Cette immobilité solennelle, elle contraste d'ailleurs de manière assez brutale avec la suite de notre exploration.
Oui, le mouvement arrive vite.
Parce que ces archives nous montrent aussi une région qui commence à s'agiter frénétiquement. Il y a deux cartes postales successives, prises sur la place de Monaco, à Mur de Barrez, qui illustrent bien ça.
L'évolution des transports.
C'est ça. L'une montre l'arrivée des diligences et la suivante, quelques années plus tard, le départ de l'autobus. Comment se manifeste ce changement de dynamisme sur le papier, selon toi ?
Bah, la différence d'atmosphère est palpable. Sur l'image des diligences, on observe un lourd véhicule en bois attiré par un double attelage de chevaux massifs.
Ça sent l'effort animal, le cuir, la poussière des longs trajets de Puyriac.
Tout à fait. Et puis, boum, on bascule sur la carte de l'autobus. Et là, le moteur à explosion a tout remplacé. La place publique est devenue une véritable scène de théâtre. L'auteur décrit très bien la cohue autour de l'engin.
Les malles, les colis, les corbeilles entassées, pêle-mêle.
C'est un joyeux bordel. C'est un véritable brassage social qui se perd sur cette place. L'objectif du photographe capte des ouvriers en casquette, des bourgeois en cravate,
le chauffeur qui pose fièrement à la portière de sa machine flambante neuve,
et même une jeune mariée émue sous sa couronne de fleurs d'oranger. Le moyen de locomotion a changé, la mécanique a évincé le cheval, mais le rituel social du départ reste immuable.
L'émotion des adieux sur la place du village, ça ne change pas. Et au milieu de cette effervescence, de l'apparition de ces grands hôtels pour accueillir ces nouveaux voyageurs motorisés, il y a un détail complètement déconcertant.
Oh, l'hôtel Magne.
Oui. J'ai lu dans l'article qu'un établissement voisin, l'hôtel Magne, avait une technique marketing pour le moins inattendue.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Sur leur carte postale promotionnelle, on voit ni grande salle à manger luxueuse, ni lit douilleux. Qu'est-ce qu'ils mettaient en avant exactement ?
Ils mettaient en avant une anomalie de la nature. Un véritable merle blanc.
Un oiseau.
Un oiseau. La carte postale montre très clairement cet oiseau rarissime, enfermé dans sa cage, avec la mention explicite qu'il est « visible à l'hôtel Magne ».
C'est fou d'utiliser ça comme argument de vente.
À l'époque, le tourisme se nourrissait énormément de la curiosité. C'était l'héritage des cabinets de curiosité. Pour un hôtelier, posséder une telle rareté, c'était l'assurance d'attirer l'attention des voyageurs de passage.
De les faire s'arrêter et donc de les faire consommer.
Bien sûr.
C'est amusant de voir cet oiseau utilisé comme outil marketing. Mais bon, la modernité a porté aussi des choses beaucoup moins charmantes sur ces routes.
Ah oui, beaucoup moins.
Car si l'autobus ou l'automobile apportent la vitesse, ils amènent aussi de nouveaux périls. Il y a cette carte postale très sombre concernant le docteur Paul Bonnefay.
Oui, le drame de 1906.
Que s'est-il passé exactement ?
Nous sommes face à l'une des conséquences directes de cette nouvelle ère mécanique. Les routes du Barès, avec leurs pentes vertigineuses, n'étaient absolument pas conçues pour la vitesse des premiers véhicules à moteur.
Elles étaient faites pour les ânes et les charrettes.
Exactement. Et le 15 mai 1906, le docteur Bonnefay, qui n'était pas seulement médecin, mais aussi maire et une figure très appréciée de la région, perd le contrôle de son automobile.
Et c'est l'accident.
Le véhicule s'écrase au niveau du pont de Couesque. Le docteur, son épouse et son beau-père périssent dans l'accident. C'est une tragédie qui a profondément traumatisé la communauté locale.
On l'imagine bien.
Et si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, l'aspect le plus troublant se trouve du côté de la production de l'image.
Les fameux paparazzi de l'époque.
Oui, à peine un mois après ce drame effroyable, un éditeur avait déjà fait imprimer une vue du pont avec la légende « Terrible accident d'automobile ».
C'est fou, un mois à peine. Mais est-ce qu'on est sûr que c'était du pur cynisme commercial ?
C'est une bonne question.
Je veux dire, peut-être que c'était simplement la seule façon pour les habitants d'informer leurs proches d'un événement majeur, à une époque où le téléphone n'existait quasiment pas dans ces campagnes.
C'est une excellente remarque, et c'est très probablement les deux. Les éditeurs répondaient à une demande d'information. D'ailleurs, l'auteur de l'article relève le message manuscrit au dos de cette carte.
Ah oui, le message au dos est fascinant.
Oui. Écrit par une habitante avec une orthographe très phonétique. Elle écrit « Je vous joins cette carte pour vous faire connaître la mort de monsieur le docteur Bonnefay ».
La carte postale assumait le rôle de notre fil d'actualité moderne, en fait.
Exactement. Elle informait visuellement. Le fait divers, même le plus tragique, devenait un objet qu'on achetait au bureau de tabac, qu'on timbrait et qu'on faisait circuler à travers le pays via le réseau postal.
Une forme de réseau social avant l'heure, imprimé sur carton. C'est surprenant de voir à quel point les dynamiques de l'information n'ont pas tant changé.
Non, les outils changent, mais le besoin humain reste le même.
Et à côté de cette vitesse mortelle, l'article souligne aussi des moments d'une incroyable lenteur. Il y a une image qui m'a vraiment intrigué.
Laquelle ?
Celle intitulée « Porteur d'eau minérale » à Meurthe-Barèze. On y voit un homme, accompagné de son âne, ployant sous le poids de dizaines de grosses bouteilles en plein milieu du village. Que faisait-il exactement ?
Bah, il faisait de la livraison à domicile, tout bêtement. Mais pour un produit qui nous semble aujourd'hui être un droit fondamental, hein, l'eau potable de qualité.
Il livrait de l'eau.
Oui. L'auteur nous explique qu'autour de Meurthe-Barèze, notamment à Combeloux et Pouchicou, jaillissaient des sources d'eau ferrugineuses. Or, la population locale avait une particularité assez amusante.
Ah bon ?
Leurs caves regorgeaient de tonneaux remplis de vin blanc du Fel ou de vin rouge d'Agnac. Le vin ne manquait pas du tout. En revanche, l'eau pure, reconnue pour ses bienfaits, devait être acheminée.
Il faut s'imaginer la scène. Le contraste entre les caves pleines d'alcool et cet homme qui arpente laborieusement les ruelles pavées, passant sous les lourdes portes médiévales pour monnayer de l'eau.
C'est une image incroyable. Cet homme et son âne formaient le réseau de distribution d'eau potable de l'époque.
C'est un témoignage super précieux sur une économie de subsistance, non ?
Et sur l'hygiène publique de ces bourgades, où l'eau claire valait parfois plus cher que le vin de table.
Et en parlant de consommer des liquides pour sa santé, notre plongée nous emmène vers un autre phénomène très curieux, presque surréaliste même.
Le tourisme médical rustique.
Oui, les photographies montrent un buron isolé, le buron de Plot, entouré de gens qu'on appelait les buveurs de petit lait. Peux-tu nous expliquer ce qui se passait là-haut ?
Alors, pour bien visualiser, un buron, c'est cette petite cabane de pierre très robuste que l'on trouve dans les pâturages d'altitude en Auvergne ou dans l'Aveyron.
Souvent coiffée d'un lourd toit de lauze.
Oui, ces grandes dalles de pierre grise. C'est là que les bergers fabriquaient le fromage pendant l'été. Ce que la carte nous montre, c'est un groupe de personnes, souvent des Parisiens originaires de la région, qui revenaient au pays pour les vacances.
D'accord.
Et ils montaient à l'aube vers ces burons pour s'adonner à une pratique médicale très spécifique.
Ils montaient pour boire les restes de la fabrication du fromage, c'est bien ça ?
Précisément, ce qu'on appelle les gospéjailles en langue locale. Ils venaient consommer le liquide résiduel de l'écrémage du lait.
Le petit lait, quoi.
Voilà. À l'époque, on considérait ce petit lait comme un élixir souverain pour purifier les poumons ou soigner les troubles intestinaux.
C'est fou.
C'est une pratique qui s'apparente au curuval, ces régimes stricts à base de raisins, très en vogue à l'époque pour nettoyer l'organisme, ou aux séjours thermaux dans les villes d'eau. Mais ici, on est dans la version montagnarde et brute, sans aucun chéchi.
On a du mal à concevoir le choc culturel. Des citadins peut-être habitués aux boulevards parisiens qui se retrouvent dans la brume matinale, au milieu des vaches, à boire du petit lait tiède.
Et croisant peut-être sur leur chemin les enfants des colonies de vacances avec leurs petits bérets à étoiles rouges, comme on le voit sur d'autres cartes.
C'est un sacré contraste.
Cela prouve que la carte postale ne se contentait pas d'esthétiser le paysage rural. Elle documentait une véritable interaction sociologique.
Entre le monde paysan ancré dans la terre et un monde urbain en quête de remèdes naturels.
Un monde urbain cherchant la guérison dans la rusticité, oui.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si jusqu'à présent nous avons observé une cohabitation plutôt paisible entre les éléments, le troisième grand thème de cette analyse nous projette dans une dimension totalement différente.
Ah, on change d'échelle.
Complètement. On passe des burons silencieux à des bouleversements géants du paysage. L'entrée du Carlades dans l'ère industrielle lourde a dû être un cataclysme visuel et sonore.
Le mot n'est pas trop faible. La région n'a pas échappé à la grande faim énergétique du XXe siècle. L'article détaille la série de cartes postales consacrées aux chantiers hydroélectriques colossaux menés dans les gorges de la Truyère.
Une rivière sauvage, indomptable, qui va être littéralement corsetée par l'ingénierie humaine. Sa quenouille, que montrent concrètement ces images de chantier ?
Elle montre l'envers d'un décor titanesque. On y voit des ouvriers s'affairant dans des tunnels sombres, notamment le tunnel de la Cadenne, percé sur plus de 7 km à la force des bras et de la dynamite.
7 km.
On observe le montage des turbines dans de gigantesques halls d'usine et des excavatrices monstrueuses qui remuent des montagnes de roches. C'est le triomphe absolu de la machine sur la géographie.
C'est colossal. L'ampleur de la tâche était telle que le chantier du barrage de Saran a tiré du beau monde, n'est-ce pas ?
Il fut inauguré en 1933 par le président de la République en personne, Albert Lebrun. À l'époque, on parle de la plus grande usine hydroélectrique d'Europe.
Rien que ça. Pour bien faire comprendre l'échelle de ce bouleversement à quiconque nous écoute, l'article mentionne des chiffres qui donnent le vertige concernant ce fameux barrage de Sarans.
Oh oui, les chiffres sont fous.
On parle de 48 millions de mètres cubes de béton et d'une hauteur de 85 mètres.
Pour donner une idée plus concrète, 85 mètres de haut, c'est l'équivalent d'un immeuble de près de 30 étages.
30 étages, en plein milieu d'une gorge naturelle.
Imaginez un peu. Un gratte-ciel de 30 étages, entièrement composé d'un bloc de béton massif, qu'on viendrait encastrer là, au milieu d'une vallée boisienne et préservée. C'est une cicatrice géologique définitive infligée par l'homme au paysage.
Et les éditeurs de cartes postales étaient là pour documenter ça.
Ils ont documenté chaque étape de ce bouleversement avec une fascination évidente pour le gigantisme.
Et au milieu de cette démesure industrielle, il y a une image qui résume peut-être à elle seule toute la cruauté et la beauté de cette époque de transition. C'est celle du pont suspendu de Tréboul.
Mon image préférée de toute la série.
L'auteur de l'article insiste particulièrement sur cette photographie et on comprend vite pourquoi en la regardant de plus près.
Cette image possède une puissance symbolique inouïe. La carte nous montre une perspective plongeante dans la gorge de la rivière. Tout en bas, au ras de l'eau, on aperçoit un vieux pont gothique.
Un ouvrage de pierre avec de solides arches médiévales.
Construit par des artisans il y a des siècles. Et juste au-dessus, jeté d'une rive à l'autre à près de 100 mètres de hauteur, on voit un pont suspendu ultra-moderne. Une ligne droite faite d'acier et de câbles.
L'objectif a capturé l'instant très éphémère où l'artisanat du Moyen-Âge et l'ingénierie moderne de l'ère industrielle se superposent dans le même champ visuel. C'est incroyable.
Deux époques, deux philosophies de construction, l'une écrasant visuellement l'autre.
Mais l'ironie tragique de cette photographie, ce qui la rend si poignante aujourd'hui, c'est le destin de ces deux structures, non ?
Oh oui, l'ironie est cruelle, parce que le pont a été...
Car aujourd'hui, si l'on se promène dans le Carladaise, on ne peut plus y admirer cette superposition.
Non, c'est devenu strictement impossible. Lorsque l'immense barrage de Saran a été mis en service, la montée des eaux a créé une gigantesque retenue artificielle. Le pont médiéval, situé au fond de la vallée, a été purement et simplement englouti.
Il repose aujourd'hui dans l'obscurité, sous des millions de litres d'eau.
Exactement. Quant au pont suspendu moderne, bien qu'il fût construit beaucoup plus haut, il a fini par être jugé inutile ou dangereux suite à la modification du paysage, et il a été démoli.
L'ancien monde et le nouveau monde, effacés tous les deux par la force du progrès hydraulique.
Seule la carte postale reste pour témoigner que ce paysage a un jour existé.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Au-delà de ces anecdotes locales, que nous apprend cette immersion dans les vieilles images du Carladaise ?
Cela illustre de manière spectaculaire la compression du temps historique. En l'espace de 3 ou 4 décennies à peine, cette région est passée d'un mode de vie ancestral, où l'on filait la laine à la main, où l'on livrait l'eau à dos de mulet,
où les remèdes relevaient de la tradition rurale.
Voilà, à l'épicentre d'une révolution industrielle fracassante. Ces morceaux de carton imprimé ne sont pas des simples reliques pour collectionneurs nostalgiques.
Ce sont des sismographes.
C'est le mot juste. Ils ont enregistré les secousses d'une société qui bascule dans l'inconnu, qui abandonne son rythme naturel pour embrasser la mécanique, la vitesse et la domestication brutale de son environnement. Et cela soulève une question importante. Qu'est-ce qui marque véritablement les esprits quand on observe cette juxtaposition des siècles ? N'est-il pas stupéfiant de constater que face à des millions de tonnes de béton, la mémoire de ces lieux n'a survécu que grâce à la fragilité d'un morceau de papier cartonné de quelques centimètres ?
C'est un contraste saisissant, oui.
Sans le réflexe documentaire de ces photographes de la belle époque, sans la passion d'archivistes comme l'auteur de l'article, des pans entiers de l'histoire sociale auraient sombré dans l'oubli le plus total. Le souvenir d'un maire tragiquement disparu, ou même la curiosité d'un maire Leblanc dans sa cage, tout ça aurait disparu.
C'est un constat qui force l'humilité, franchement. Ces cartes postales, qui devaient valoir quelques centimes sur le comptoir d'une épicerie de village, ont accompli un miracle. Elles ont vaincu le temps. Elles ont offert l'éternité à l'éphémère.
C'est une belle façon de le dire.
Et cela nous mène naturellement à une ultime réflexion, une pensée que nous laissons à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Nous vivons actuellement une époque d'abondance visuelle absolue.
Oh que oui.
Grâce aux smartphones que nous avons dans nos poches, nous produisons chaque jour des milliers, des millions d'images numériques. Nous documentons nos repas, nos rues, nos moindres faits et gestes.
On mitraille tout.
Mais cette mémoire est devenue totalement immatérielle. Elle est stockée sur des serveurs distants, noyée dans des disques durs, souvent perdus au prochain changement de téléphone ou effacée par erreur.
Un simple clic et pouf, plus rien.
Face à cette dématérialisation vertigineuse, quel sera notre équivalent de la carte postale ? Quel support physique, tangible, capable de traverser les décennies, pourra raconter avec la même authenticité nos habitudes quotidiennes et nos bouleversements urbains aux historiens dans 100 ans ?
C'est une sacrée question.
L'ère la plus photographiée de toute l'histoire de l'humanité sera-t-elle paradoxalement celle qui laissera le moins de traces physiques derrière elle ?
Ça donne matière à réfléchir.
Sur cette interrogation quant à la préservation de notre propre mémoire, il est temps de refermer ce dossier. Merci d'avoir plongé avec nous au cœur des bouleversements du Carladaise, à la croisée des traditions silencieuses et du vacarme du progrès. Nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle exploration de nos archives, pour continuer à faire parler les silences de l'histoire. À très bientôt.